France Inter.
Comme votre commission va devoir se prononcer sur ma capacité à assurer les fonctions de président directeur général d'EDF, il me semble que je dois surmonter ma réticence naturelle à parler de moi. EDF, pour un homme qui, au moment de ses études, a rêvé d'être ingénieur, au moment des concours républicains, a fait de son mieux pour aller dans cette direction, c'est peut-être la mission d'une vie. Je vois ce rôle moins comme une fonction que comme une mission.
La mission d'une vie, l'audition de Luc Rémont devant les sénateurs en octobre 22, 2 ans et demi plus tard, mission avortée pour le PDG d'EDF. À 3 mois de la fin de son mandat, hier, à 15h25, l'Élysée a annoncé le nom de son successeur par un communiqué de presse. 2 lignes et pas un mot pour Luc Rémont, qui n'est donc pas renouvelé. C'est un silence violemment inhabituel. Pourtant, le patron, il a redressé la barre, hein, il a remis les réacteurs nucléaires en marche. L'année dernière, EDF a affiché un bénéfice record, plus de 11 milliards d'euros. Mais au service de qui? Eh bien, c'est tout le sujet de cette éviction. Luc Rémont, homme venu du privé, PDG d'une entreprise à 100% détenue par l'État, a eu des relations très tendues avec son actionnaire ces derniers mois. D'abord au sujet des EPR2, vous vous souvenez, c'était la promesse d'Emmanuel Macron à Belfort, le nouveau nucléaire français. L'État veut avancer vite sur le design industriel, sur le financement, mais les négociations ont tourné au bras de fer. Et puis alors la goutte d'eau, en pleine guerre commerciale, les clients industriels se sont beaucoup plaints à l'Élysée des prix d'EDF. Et voici ce qu'a dit le patron de Saint-Gobain de la politique tarifaire de Luc Rémont. Un bras d'honneur à l'industrie française. Ça, c'était jeudi, la veille de la disgrâce. Alors EDF au service de qui? De sa santé financière, des politiques, des contribuables? Derrière tout ça, il y a encore une autre question de fond. À quelle vitesse faut-il construire ces nouveaux réacteurs à plusieurs dizaines de milliards d'euros alors que l'offre d'électricité, aujourd'hui, elle est supérieure à la demande? Un homme a accepté cette mission de fou. Bernard Fontana a été choisi par l'Élysée. C'est justement un industriel. Sa mission, elle semble évidente, être alignée avec la volonté de l'État. Et c'est donc le patron de la filiale d'EDF Framatome. Alors qu'en dit-on déjà en interne? Écoutez, moi, on m'a dit par exemple, Framatome, c'est eux qui ont fabriqué le couvercle de Flamanville 3, celui qui a dû être remplacé. Ambiance, allez, bon courage.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans le Magéco, toute la bande vous attendait pour commencer la conversation. C'est-à-dire Valentin Pérez, Étienne Bertin, Hélène Bisio, Joseph Ascal, Corentin Rouchy nous signe les mix, et puis c'est Ilaï Ravu, qui nous met à l'antenne. 22 milliards de chiffre d'affaires pour la restauration rapide au pays de la bonne bouffe. Est-ce que la passion des Français pour le snacking, elle résiste à notre consommation qui est plutôt en berne? On va en parler avec le directeur général de Burger King en France, Alexandre Simon, dans ce studio vers 9h40. On va aussi regarder un peu tout ce qui se fait en termes d'innovation pour l'alimentation. Zoom sur la food tech ce matin. Ce sont ces startups qui sont en train de composer nos assiettes du futur. Vous entendrez le reportage de Mariam El Kurdi. Nourriture du corps, nourriture de l'esprit, voici notre guide dans les coulisses du monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Alors ce samedi, vous avez une question de Juliette qui vit une situation pas banale.
Oui, son patron l'a trop payé pendant de longs mois. Juliette, doit-elle rendre l'argent?
Sandrine Foulon, on se retrouve juste avant les infos de 10h. Tout de suite, j'accueille nos débatteurs. Sophie Fay, salut Sophie.
Salut Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service économie du quotidien Le Monde. Et Patrick Artus, hello Patrick.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller senior chez Ossiam. Ce matin, on a décidé qu'on allait prendre de la hauteur tous les trois et avec tous nos auditeurs. On va regarder si l'Europe est en train de bouger. Et d'abord notre voisin, cette puissance économique qui semblait solide, des règles budgétaires qui semblaient inébranlables. Tout change, c'est l'Allemagne. Quels enjeux derrière l'incroyable tournant allemand? C'est le titre de notre débat.
Friedrich Merz, futur chancelier de l'Allemagne.
Nous devons maintenant reconstruire nos capacités de défense à partir de zéro. La décision que nous prenons aujourd'hui sur la préparation à la défense, au sens large pour notre pays, ne peut donc être rien de moins que le premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense.
Merz, c'est une révolution copernicienne.
Christine Ockrent, journaliste. Productrice à France Culture.
Vous avez deux générations d'Allemands pour qui Washington, c'était le phare sur la colline. Et donc là, Merz a mis des mots sur cette rupture quasiment existentielle pour les Allemands.
L'autonomie stratégique en Europe, elle passe aussi par la réindustrialisation.
Florent Vabon, économiste pour la société de gestion Ecofi.
Ça va engendrer des gains de productivité aussi. Et puis par ailleurs, l'Allemagne va faire travailler ses copains dans la zone euro. Donc ça va aussi avoir des effets cascades sur les autres pays de la zone euro. Et on n'est pas là sur un choc de demande transitoire ou conjoncturel. On est véritablement sur quelque chose de structurel.
L'Allemagne, c'est le seul pays de l'OCDE, donc le club des pays riches, où depuis 25 ans, on n'a pas investi dans les infrastructures publiques.
Guillaume Duval, conseiller auprès de l'Institut Jacques Delors.
Donc ils vont investir là-dessus. La bêtise, c'est que s'ils avaient fait ça il y a 5 ans, ils auraient emprunté à 0%, alors que là, ils vont emprunter à 3%, un peu comme nous, quoi.
L'Allemagne rompt avec sa sacro-sainte rigueur budgétaire, un arrêt qui limite le déficit annuel à 0,35 points de PIB.
Pour l'armement, on a décidé que quand les dépenses iraient au-delà d'1% du PIB, c'est-à-dire 43 milliards, on pourrait contourner ce frein à la dette.
Hélène Millard de la Croix, professeure d'histoire de l'Allemagne contemporaine, Sorbonne Université.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est bien beau déjà d'emprunter de l'argent, c'est bien beau de vouloir armer un pays, mais il faut que ça suive. C'est un processus très lent.
Le problème qu'on avait en Europe jusqu'à maintenant,
Michaela Wiegel,
c'était que l'Allemagne était tournée vers l'extérieur.
Correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Et là, on assiste à une réorientation de l'Allemagne et ça va vraiment être la mission de ce prochain gouvernement de redécouvrir l'Europe et de s'intégrer en Europe.
Sophie Fay, je me tourne vers vous pour faire la photo de la première puissance économique européenne, notre voisin, l'Allemagne. L'Allemagne qui va mal, l'Allemagne qui dépense, c'est une photo inversée par rapport à il y a 20 ans en fait.
En réalité, c'est une bonne nouvelle. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de la campagne électorale en Allemagne, on a un livre très important qui a été publié par Wolfgang Münchau, qui est un Allemand qui a été longtemps éditorialiste au Financial Times, et c'était titré « Kaput, la fin du miracle allemand ». Et les Allemands ont découvert que leur économie, donc qui était très dépendante des importations d'hydrocarbures russes pas chères, de l'énergie pas chère, très dépendante de la Chine, était à un tournant et devait complètement se réinventer. Et il se passait pas grand-chose. Quand on regarde le décrochage de l'industrie allemande, il date de 2018 et il a des conséquences énormes puisque un cabinet qui s'appelle Trindéo a fait une simulation pour regarder où vont les investissements industriels dans le monde. Et l'Union européenne, entre 2016 et 2024, n'a récupéré que 8% de ses investissements. 17% sont allés aux États-Unis, 53% en Asie. Ce qui se passe, c'est l'Allemagne qui a arrêté d'investir et qui, l'an dernier encore, avait un investissement en baisse. Et donc, ce recul de l'Allemagne se ressent sur l'économie, se ressent sur toute l'Europe et se ressent sur son déclassement qu'on a. Et ce déclassement, mais le coup d'arrêt a été quand Donald Trump a dit « Nous, maintenant, vous allez vous débrouiller vous-même pour votre industrie de défense, nous, on va arrêter d'importer vos voitures. » Et donc, tout à coup, l'Allemagne est au pied du mur et doit bouger. Ça fait des années que les économistes lui disaient qu'il fallait investir dans les infrastructures. Il y a une note de la banque suisse Mirabeau qui dit que 83% des entreprises allemandes utilisent encore le fax, qui sont à la traîne dans l'OCDE pour l'équipement en fibre optique, par exemple.
Et donc, il fallait les routes, les ponts, les industriels allemands n'arrêtent pas de se plaindre.
Voilà, il fallait qu'il le fasse et il ne le faisait pas. Et là, tout à coup, à la surprise générale, Friedrich Merz l'annonce qu'il va faire un énorme plan. Et donc, c'est potentiellement une très bonne nouvelle pour l'Europe.
Et Patrick Artus, ce plan, il faut nous aider à le décortiquer. Il tient en deux volets. On nous parle de 500 milliards d'euros. On nous parle de lever le frein à la dette. Dites-nous ce qui vous paraît important, si c'est une révolution.
Oui, d'abord, pour suivre ce que dit Sophie, l'Allemagne est spécialisée dans des industries milieu de gamme. C'est l'automobile, la chimie, les engrais, l'acier. c'est pas du tout évident que l'Allemagne arrive à sauver ce modèle industriel. Hein, donc, parce qu'il est attaqué par les États-Unis, par le prix de l'énergie en Europe, par la Chine, etc. Alors, le plan de Friedrich Merz, c'est d'une part 500 milliards d'euros sur 10 ans pour des infrastructures et à la demande de la composante des Verts, de sa majorité, pour des investissements dans la transition énergétique. C'est pas de l'argent public, hein, ça sera pas à la charge du budget allemand. Et puis une levée du frein à la dette, le Schuldenbremse.
Bravo, Schuldenbremse.
Et l'Allemagne s'autorise à 1,5 point de déficit public supplémentaire si ce sont des dépenses militaires. Alors, je crois qu'il ne faut pas exagérer l'enthousiasme que ça a suscité. Par exemple, le déficit public de l'Allemagne, c'était 2,4% du PIB de l'Allemagne en 2024. La limite nouvelle maintenant, compte tenu de la réforme du frein à la dette, c'est 1,8%. Donc ça veut dire que l'Allemagne va devoir continuer à réduire ses déficits publics. Alors il y aura une part du militaire plus élevée, mais il y aura des baisses des autres dépenses. Les autres pays européens ont aussi besoin de faire davantage de dépenses militaires, mais la France est bloquée par son déficit public très élevé. Et puis l'Espagne et l'Italie qui ont annoncé un programme pour aller vers les années vers 2030 à 2% du PIB de dépenses militaires, il y a un consensus en Espagne et en Italie pour dire qu'ils n'y arriveront pas, que ça part de trop loin, que ça sera très difficile. Donc en réalité, il n'y aura pas d'explosion du déficit public européen. Et il y aura une compensation du supplément de dépenses militaires par moins d'autres dépenses. Et puis un dernier point, cette nouvelle a fait curieusement baisser de 70 points de base, hein, 0,7 points, les taux monter.
Alors oui, non, attendez, il faut aller plus lentement là, Patrick, parce que pour les auditeurs, on en a peut-être perdu quelques-uns en route. Donc l'Allemagne nous dit que, Sophie, on a en effet ce grand plan, et normalement, les taux d'intérêt auraient dû baisser.
Ben, ils ont énormément monté.
Ils ont énormément monté
en réaction à l'anticipation de déficit public. Donc d'abord, il n'y aura pas beaucoup de déficit public supplémentaire. À nouveau, l'ensemble de l'Europe va continuer plutôt à baisser son déficit public. Et malheureusement, la hausse des taux d'intérêt à long terme qu'on voit, qui va affecter le logement, les dépenses, les intérêts payés sur la dette publique, va probablement, si elle persiste, l'emporter sur l'effet de relance du plan allemand.
Ah non, mais alors... Sophie Fay, là, il est en train de Patrick Artus nous retourner. On dit le Schuldenbremse, le frein à la dette, c'est une révolution, et finalement, Patrick nous dit non. Et puis, l'effet à court terme de ce plan de relance va peut-être l'emporter sur l'effet positif de moyen terme.
Alors Patrick est peut-être un peu pessimiste, parce que Friedrich Merz a dit quand même, il a utilisé ce mot un peu mythique en Europe, qui est cette expression « whatever it takes ». Il a dit que pour relancer l'économie allemande, pour financer cette indépendance, pour remettre l'Allemagne au cœur du monde, notamment sur la voiture, hein, ils ont pris tellement de retard sur la voiture électrique, le véhicule autonome, ils ont pris du retard sur le train, donc il faut vraiment remettre l'Allemagne au centre du jeu. Il a dit qu'il ferait « whatever it takes », quoi qu'il en coûte. C'était la fameuse phrase de Mario Draghi. Donc on a l'impression quand même qu'on est à un moment européen où le paradigme change. L'Allemagne veut endosser un nouveau rôle. Et la nouveauté, c'est que l'Allemagne n'est pas seule. C'est-à-dire que on voit que tous les pays baltes, que deux pays scandinaves ont aussi énormément soutenu le plan européen pour l'industrie de défense. Et ont commencé à parler, à mettre sur la table l'idée de faire un emprunt européen pour financer cette défense. C'est soutenu aussi par le président portugais Antonio Costa, c'est soutenu par le président polonais Donald Tusk, et c'est soutenu par plusieurs dirigeants, chefs d'État, conservateurs. Et on attend de savoir ce que Friedrich Merz va dire sur ce point-là, mais on voit bien qu'il y a quand même un changement, il y a une Europe qui est en train quand même de prendre en main son destin et de décider qu'il faut faire quelque chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Patrick Artus, l'Europe qui reprend en main son destin, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a quand même quelque chose qui se passe. Il me semble qu'on entend aussi de plus en plus cette idée que, alors on l'entend depuis longtemps, vous allez me le dire, mais ce que l'épargne des Européens doit vraiment, cette fois-ci, pour de vrai, vu le contexte géopolitique, être réorientée vers l'économie européenne.
Oui, alors on sait que 300 milliards d'euros d'épargne des Européens vont aux États-Unis chaque année. Et donc, finance...
Mais comment, racontez-nous, c'est quoi le circuit?
C'est les assureurs allemands, c'est essentiellement, ce sont deux pays européens qui ont trop d'épargne par rapport à leurs besoins d'investissement, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc, c'est des assureurs allemands, c'est des fonds d'investissement allemands qui trouvent plus rentable d'investir dans les entreprises américaines, dans la dette publique américaine, que dans la dette publique européenne ou dans les entreprises européennes. Alors, si on arrivait à changer ça... Ça serait extraordinaire, parce que ça financerait les deux tiers des besoins cités par Mario Draghi dans son plan de transition énergétique et de renouvellement industriel de l'Europe. Simplement, ça va être compliqué, parce que la cause essentielle du transport de l'épargne des Européens vers les États-Unis, c'est l'insuffisance de la rentabilité des investissements en Europe, et en particulier l'insuffisance de la rentabilité des entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines. Et les entreprises américaines ont une rentabilité qui est dopée parce qu'elles ne distribuent pas les gains de productivité à leurs salariés. Donc c'est tout le modèle américain effectivement qui attire de l'épargne.
Et en même temps, peut-être que les investisseurs, ils ont le droit de se faire un peu de soucis en ce moment avec Donald Trump à la Maison Blanche. Si j'étais investisseur, non, ils se font pas un petit peu de soucis.
Alors pour l'instant, non. Moi, je me ferais un peu de soucis, surtout sur les plans assez bizarres des conseillers de Donald Trump sur le système monétaire international. Vous savez que.
Alors ça, c'est passionnant, mais vous allez m'ouvrir un autre débat.
Mais il y a des idées qui circulent aux États-Unis qui devraient priver le dollar de son statut de monnaie de réserve. Donc si c'est mis en place, oui, il y aura un changement de l'attraction des États-Unis, mais ce n'est pas encore mis en place.
Sophie,
ce que les investisseurs vont chercher aux États-Unis, c'est la croissance. On voit qu'elle était nettement plus forte et puis qu'il y avait un soutien public à cette croissance énorme avec Joe Biden. Et là, tout à coup, on se demande si ça va rester avec Donald Trump, puisque on voit que ce qu'il est en train de faire sur les droits de douane, c'est catastrophique. On voit aussi que, petit à petit, justement, cette question de la monnaie de réserve et toutes ces déclarations font baisser le dollar. Si la perspective, c'est d'investir dans une monnaie qui baisse, et donc même si vos actifs sont rentables, ils se dévaluent, c'est peut-être moins bon. Là, on a, avec ce plan allemand, avec ce sursaut européen, peut-être une perspective de redémarrage de la croissance en Europe, de redémarrage de l'investissement, et puis une augmentation des taux qui fait que ça va peut-être donner envie aux ménages, parce que au fond, c'est quand on va voir notre banquier, il vous propose des placements, et il vous propose pas des placements seulement européens, il vous propose des placements pimentés par des obligations américaines pour faire monter les taux. Ben là, tout à coup, si les taux allemands, les taux européens sont un peu plus élevés, on va garder peut-être notre épargne en Europe. La difficulté, c'est que cette hausse des taux fait aussi monter le coût des dettes et que donc, pour les pays comme nous, la France, qui sommes en déficit et qui avons beaucoup de dettes à rembourser, ça va augmenter nos dépenses.
Patrick Artus, je vous ai bien compris, vous n'êtes pas certain qu'on va vers une relance de la croissance en Europe et vous avez aussi des doutes sur ce que la Commission européenne a exposé mercredi, sa feuille de route pour aller vers une union de l'épargne et de l'investissement ?
Mais je crois que la chose critique, c'est l'attractivité de pour l'épargne des Européens d'investir en Europe, comme l'a dit Sophie. Et on sera plus aidé probablement par une dégradation de l'attractivité des États-Unis avec les politiques de Trump, avec la mise en cause peut-être du statut de monnaie de réserve du dollar, que par les politiques purement européennes pour ce faire.
Bon, je vous promets, on en reparlera des thèses de, comment il s'appelle, Steven Miran, c'est ça hein, et de la politique du dollar faible que vise Donald Trump aux États-Unis. Patrick Artus et Sophie Fay, merci à vous deux. Ils ont fait le débat de ce samedi 22 mars.
La déindustrialisation
unemployment and lower job
creation.
L'économie en version originale. Il s'agit de voir avec nos correspondants dans quel sens tourne la planète éco chez eux. Et ce matin, nous sommes en Chine.
Cette 始终欢迎外国企业。
La Chine va encourager les investisseurs étrangers à accroître leur réinvestissement dans le pays, quelle que soit l'évolution de l'environnement extérieur. La Chine accueille les entreprises étrangères. Ça, c'est la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, et c'est ce qu'elle a déclaré en amont du sommet que Pékin organise à partir de demain avec les grands patrons de la planète. Bonjour Sébastien Berriot, Ni Hao.
Oui, bonjour Alexandra, bonjour à tous, Ni Hao.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Chine. Pendant des dizaines d'années, les entreprises occidentales, elles ont fait les yeux doux à Pékin en espérant mettre le pied sur ce marché de plus d'un milliard d'habitants. Mais les temps ont changé et désormais ce sont les Chinois qui semblent en demande. Demain, Sébastien, on a donc ce sommet pour l'attractivité qui s'ouvre chez vous. C'est un peu comme notre Choose France organisé ici par l'Elysée. Pékin se prépare à dérouler le tapis rouge aux grands patrons des multinationales étrangères.
Oui, et les autorités chinoises ont mis le paquet cette année pour ce forum officiel qui va accueillir les dirigeants des plus grandes entreprises de la planète. Près de 80 grands patrons attendus, américains et européens, avec un casting prestigieux, notamment Airbus, BMW, Nestlé, McKinsey, AstraZeneca ou encore Siemens. Tapis rouge déployé effectivement, car la Chine aujourd'hui a plus que jamais besoin de fonds étrangers pour faire redécoller son économie et atteindre la prévision de croissance à 5% fixée pour 2025. Les investissements étrangers apparaissent comme indispensables alors que le pays voit ses exportations devenir incertaines avec les menaces commerciales de Donald Trump. Ce genre d'événement est organisé pour rassurer les sièges des entreprises étrangères, faire passer le message que la Chine est un pays sûr pour investir et pour servir de caution, le régime va faire appel à son président Xi Jinping qui, selon plusieurs sources, doit recevoir personnellement une délégation de patrons étrangers une fois que le forum sera terminé.
Sébastien, il y a quand même un petit peu de travail pour convaincre.
Oui, parce que les entreprises étrangères n'ont pas oublié les années Covid et la fermeture du pays pendant 3 ans. La crainte aussi d'un jeu inégal avec les entreprises chinoises. Tout cela fait qu'en 2024, les investissements directs étrangers ont baissé de 27%. Pourtant, le régime ne cesse de multiplier les déclarations et les signaux, comme par exemple l'an passé, l'autorisation donnée à des étrangers de pouvoir ouvrir des hôpitaux sans partenaire chinois. Ça s'est concrétisé dans la ville de Tianjin il y a quelques semaines avec l'ouverture d'un hôpital privé entièrement géré par une société de Singapour. Une petite révolution censée donner le ton de la nouvelle ouverture de la Chine aux investisseurs étrangers.
Sébastien Berriot avec nous de Beijing. h 35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, le patron des restaurants Burger King en France sera dans ce studio avec Alexandre Simon. Des questions sur notre alimentation et puis cette croissance des fast-food. Alors, se nourrir à quel prix? Que mettra-t-on dans nos assiettes? C'est la question passionnante de l'alimentation du futur qui intéresse les agro-industriels et de nombreuses start-up. Coup de projecteur ce matin sur la food tech française. Ce sont des centaines de jeunes pousses qui cherchent des solutions de livraison, d'emballage, de robotisation. Et puis, ce qu'aiment particulièrement les investisseurs, des solutions pour remplacer les protéines animales. Alors venez, nous sortons du studio, cap au nord. Notre reporter Maria Melcurdiel nous emmène dans la ferme aquacole des Delannoy. C'est lors d'un séjour humanitaire aux Philippines que Chile et Xavier ont découvert des micro-algues utilisées pour lutter contre la malnutrition et qu'ils acclimatent désormais dans leur exploitation de Villeneuve-d'Ascq.
Faites attention à la petite marche là.
On a 2 bassins de couleur verte.
Il y a une sorte de symétrie des bassins, tout en longueur, peu profond. C'est entre 15 et 20 cm de profondeur, parce que la spiruline doit avoir un accès à la lumière, au CO2, à l'oxygène. Et puis, effectivement, on y voit une eau verte.
Et là, qu'est-ce qu'on a devant nous? Vous avez sorti un petit écran. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, alors c'est un microscope. La spiruline, elle est micro-algue microscopique. Il faut donc la regarder avec un appareil pour pouvoir la voir. Alors là, je prends un échantillon dans les bassins pour pouvoir vous montrer sur le microscope.
Et là, au microscope, effectivement, on voit des formes vertes, là.
Des sortes de petites vaguelettes de différentes tailles. Et ça, chacune de ces petites queues de cochon miniatures, c'est de la spiruline. Dans 10-20 ans, il faudra limiter sa consommation de viande, c'est certain. L'avantage de la spiruline, de manière générale, c'est que ça consomme peu d'eau, peu de surface. Ça consomme 300 fois moins d'eau pour produire la même quantité de protéines que la viande de bœuf.
Là, on est sorti de la serre et là, on arrive dans une toute petite maisonnette en bois.
C'est l'un de nos petits bureaux et c'est une petite boutique qu'on a à la ferme pour accueillir des clients, des événements, etc.
Et vous avez exposé un peu les produits que vous proposez, c'est ça? Je vois des boîtes de spiruline.
Ouais, c'est ça. La spiruline en paillettes, la spiruline en poudre, la spiruline en comprimé. La paillette, ça fait des petits copeaux qu'on peut venir mettre dans des salades, qu'on peut mettre au-dessus d'une tartine de pain ou au-dessus de ses plats. En poudre, les gens vont plutôt l'utiliser mélangé dans des yaourts, boissons, etc. Ensuite, vous avez la version, la fraîche aujourd'hui, on n'est pas en saison. Je ne peux pas vous montrer la spiruline fraîche. Par contre, on peut vous présenter la spiruline surgelée. On peut faire de la purée à la spiruline fraîche surgelée. On peut simplement casser son carré dans un yaourt. Et ça va apporter donc une saveur douce et puis des nutriments. C'est riche en protéines, ça a beaucoup de minéraux et notamment du fer dans des quantités qui sont assez incomparables. Il y a des vitamines intéressantes et puis surtout une molécule qui s'appelle la phycocyanine qui est un puissant antioxydant et un puissant stimulant immunitaire.
Et ça a quel goût ?
On est sur un goût entre le fromage frais relativement neutre et un goût un peu iodé, un peu salé. L'enjeu en France pour nous, c'est que cet aliment, qui est la spiruline, qui est beaucoup vu comme un complément alimentaire, c'est qu'il devienne vraiment un indispensable du quotidien des Français. Ça demande plus d'accompagnement, plus de marketing, plus de communication. C'est notre deuxième vraie année de développement commercial. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires d'un peu plus de 300 000 euros. Mais surtout, l'enjeu d'Ethica Spirulina aujourd'hui, c'est de construire notre nouveau site de production. On vient de réaliser une levée de fonds d'1 million d'euros pour construire notre nouveau site de production qui fera 5000 mètres carrés, donc 10 fois plus gros que ce qu'on a ici. Qui va nous permettre de monter nos volumes et d'accélérer notre développement.
Ethica Spirulina commercialise ses produits dans près de 300 magasins bio. Cette start-up de la food tech est en phase d'industrialisation, une étape périlleuse que seuls certains parviennent à passer. Happyvore y est arrivé.
Oui, bonjour, je suis au numéro 50. Il y a un code, hein ?
Depuis un an et demi, cette entreprise, créée en 2020, produit dans son usine de Chevilly dans le Loiret des steaks, des nuggets ou encore des merguez à base de protéines végétales. Je me rends au siège à Paris.
Bienvenue, donc Guillaume Dubois, fondateur et président de Happyvore. Au début, on était plutôt ce qu'on appelle une start-up. Maintenant, on est 150 personnes. On a beaucoup, beaucoup grandi. Aujourd'hui, en fait, on envoie tous les jours des centaines de milliers de repas sur le marché. Tous les jours, donc on a atteint une vraie échelle. Néanmoins, on n'est pas encore une entreprise rentable. Et en fait, dans le végétal, quasi aucune entreprise n'est rentable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a décidé, comme beaucoup, de baisser les prix au niveau à peu près de la viande, parce qu'il y a 5 ans, nos tarifs étaient deux fois supérieurs, hein, quasi. Et du coup, c'était un vrai frein à la consommation, les prix. Et on a vu que ça a quand même beaucoup aidé à notre développement. La priorité, ça reste encore la croissance du marché, parce que le végétal reste encore un petit marché par rapport à la viande. On est à 1 ou 2% du marché de la viande. Il y a des pays où le végétal, c'est plutôt aller 4-5% du marché de la viande. La France peut largement atteindre ces chiffres-là.
Vous y croyez ?
Ah, j'y crois à fond, c'est pour ça que j'ai lancé l'entreprise. Sinon, je ne l'aurais pas fait.
Très bien. Merci beaucoup.
Ouais, merci à vous.
Et les grands groupes agroalimentaires semblent eux aussi croire en l'avenir de la food tech. De plus en plus, ils soutiennent des jeunes entreprises innovantes du secteur. C'est le cas de Bell, Nestlé ou encore de Danone. En 10 ans, le géant français a investi dans 24 startups qui fabriquent par exemple des yaourts à base de noix de cajou, du chorizo végétal ou encore du lait artificiel développé en laboratoire. Taous Lassel est porte-parole de Danone.
D'abord, on sait que la population mondiale va continuer à se développer et à croître. Donc on va avoir plus de gens à nourrir. Deuxièmement, on a des tensions sur un certain nombre de matières premières qui sont soumises aux contraintes climatiques avec des productions qui varient et des tensions. Dans certaines régions du monde, on sait que les éleveurs font face à des défis mais monstrueux. Et nous, notre devoir, c'est de se dire quelles sont les autres alternatives. Les biotechnologies nous montrent qu'aujourd'hui, on pourrait envisager d'avoir des protéines de type, par exemple, la casine qu'on trouve dans le lait, produites via des biofermenteurs. Le principe, c'est de se dire, à partir d'une bactérie ou d'une levure, on crée les conditions expérimentales pour que cette bactérie puisse produire une protéine. Il y a des premières expériences qui sont encourageantes. Cette idée, elle a du sens. Est-ce que derrière, elle va pouvoir se transformer un jour en une solution industrielle ? On n'en est pas là.
Tous les entrepreneurs ne vont pas au bout de l'aventure de l'innovation alimentaire. L'entreprise Insect, par exemple. Elle s'était lancée en 2011 dans la production d'aliments à base d'insectes pour la consommation animale et humaine. Elle semblait promise à un bel avenir. Mais le 3 mars dernier, elle a été placée en redressement judiciaire. Plus globalement, depuis 2 ans, les startups françaises de la foodtech souffrent aussi d'une forte baisse des investissements. Presque moins 70% entre 2022 et 2024. Est-ce une désillusion durable pour le secteur ? Mathieu Vincent est le cofondateur du cabinet d'études Digital Food Lab.
On investit moins. Déjà, le premier point, c'est de se rendre compte que ça avait monté de façon tranquille depuis, entre, on va dire, 2012 jusqu'à 2020. Et par contre, il y a eu une forme d'excitation 2020-2021. Les investissements ont explosé, peut-être de façon irrationnelle. Donc, c'est plus un retour en arrière. Il y a un contexte économique qui n'est pas très porteur pour les investissements dans la technologie et dans l'innovation, tout simplement avec la hausse des taux d'intérêt et les conséquences de l'inflation, il est plus intéressant pour des investisseurs d'aller parier leur argent sur autre chose que des choses de très long terme. Et ensuite, lié à l'écosystème agroalimentaire, beaucoup se sont rendus compte que les investissements qui avaient eu lieu entre 2021 et 2022 étaient peut-être un peu optimistes par rapport à leur capacité à avoir des retours très rapide, qu'il faut beaucoup plus de temps pour qu'on soit des modèles économiques fiables et éventuellement être rentables.
C'est-à-dire, vous avez des exemples ?
Il y a beaucoup de sujets sur les nouvelles protéines. On parle d'agriculture cellulaire ou de viande de laboratoire. Il y a eu des investissements très importants et on se rend compte quelques années après que la technologie n'est pas encore suffisamment mature pour réellement envisager un passage à l'échelle et encore moins une industrialisation.
Quel avenir pour toutes ces startups qui essayent d'inventer les protéines du futur, les aliments du futur, dans ce contexte ?
Si on prend un peu de recul et qu'on sort de, on va dire du court terme, les facteurs qui sont à l'origine de cet écosystème sont toujours là, et même encore plus. Les problématiques liées à la santé par l'alimentation, le lien entre climat et alimentation sont de plus en plus présentes et de plus en plus fortes. Donc, si on prend une perspective un petit peu plus long terme, cet écosystème a toujours sa place, sa pertinence, et on est convaincu qu'à un horizon de 12 à 24 mois, on reverra de la croissance sur les investissements et sur l'écosystème d'innovation.
Après l'emballement, retour à la réalité pour la food tech. C'était le reportage de Mariam El Kurdi.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Pour continuer la réflexion, le directeur général de Burger King en France est l'invité du Mag Echo. Bonjour et bienvenue Alexandre Simon.
Bonjour.
Burger King, 570 restaurants, 30 000 personnes, c'est ça qui travaillent ?
Exactement.
Dans un restaurant, sur le tableau de service, il y a plusieurs dizaines de personnes en fait, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, la croissance de Burger King en France est assez colossale. C'est une vraie success story à la française, parce qu'il faut savoir que Burger King appartient au groupe Bertrand en France. Olivier Bertrand, donc, il y a un peu plus de 10 ans, a fait revenir la marque en France et a négocié l'exclusivité pour le développement et l'exploitation de cette marque en France. Et donc, les investissements sont français. Il faut savoir que le groupe Bertrand, c'est le premier groupe de restauration français. Et avec des brasseries comme la Brasserie Lippe, le Vaudeville, le Procope, mais aussi des très grandes marques comme Hippopotamus, Léon, Au Bureau, et puis Burger King qui est en pleine croissance.
C'est sa marque leader, vous faites 2 milliards de chiffre d'affaires, là où McDo par exemple en fait 6, McDo c'est le leader du secteur. C'est intéressant que vous choisissiez bille en tête de démarrer sur On est un groupe français, Alexandre Simon. Est-ce que, je ne sais pas, en ce moment on entend beaucoup parler du boycott des produits américains, les burgers, on se dit c'est américain. Est-ce que c'est parce que cette idée vous inquiète ? Est-ce que vous avez envie de souligner que vous êtes français ?
On souligne pas que le
Est-ce
fait
que ça vous inquiète ? C'est ça ma question.
On n'est pas inquiet parce qu'on est français. Il faut savoir que donc, le développement des restaurants se fait avec 170 franchisés qui sont vraiment des personnes très impliquées dans leur ville, très engagées. On recrute en effet entre 50 et 70 personnes dans chacun des restaurants, ce qui fait 30 000 personnes qui travaillent chez Burger King. 75% de nos produits sont des ingrédients français. Les oignons sont 100% français, les pommes de terre de nos frites sont 100% françaises, les nuggets de poulet sont 100% français, la majorité de la viande de bœuf est française.
Qu'est-ce qui n'est pas français
encore ?
Les pains,
etc. La très grande majorité est française. La tomate est française en été et le reste du temps, on va parfois se fournir dans le sud de l'Europe. Mais globalement, en fait, on a fait cet effort et il faut savoir, et ça c'est très important, que chaque année, sur 2 milliards de chiffre d'affaires, on reverse 1,5 milliard d'euros, 500 millions d'euros dans l'économie française, que ce soit dans les produits, que ce soit dans la construction des restaurants, puisqu'on ouvre entre 50 et 70 restaurants chaque année. On a ouvert 50 l'année dernière, on va faire 60 ouvertures cette année. On a une logistique française.
Alexandre Simon, je vous interromps parce que vous avez envie de dire plein de choses. C'est l'origine, ça fait le monde de la restauration rapide. Est-ce que c'est depuis le démontage des McDo, de McDo à Millau, avec José Bové, qu'il a compris qu'il fallait avoir une relation différente avec le territoire national ?
Je pense que ça a été un déclencheur fort. Je pense qu'il y a eu vraiment un changement de paradigme à ce moment-là. Et je pense qu'en effet, la restauration rapide en France est à un niveau de premium, je pense qu'il n'y a peut-être pas dans les autres pays, parce qu'on a compris, et le français est exigeant, qu'on devait faire un business localement et qu'on devait être impliqué localement. Et nous, en fait, on fait partie d'un groupe français, on a cet ADN de restaurateur, c'est ce qui est très important, et que l'on a mis chez Burger King. Et donc, chez Burger King, quand vous rentrez dans un restaurant Burger King, ben, les décors, c'est des décors qu'on a développés spécifiquement pour la France. On fait du service à table, c'est-à-dire que vous commandez soit aux bornes, soit directement sur un QR code à table et on vous apporte votre commande à table. Donc, globalement, on a une expérience qui est très positive. On a des franchisés très engagés.
Vous recevez beaucoup de dossiers de franchise. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « je veux devenir, je veux ouvrir un fast-food
». Burger King, je pense que c'est la success story. On reçoit 2000 candidatures par an pour 15 personnes que l'on retient. Et en fait, on regarde deux choses et c'est pour ça que j'invite vos auditeurs, s'ils sont motivés, à nous rejoindre et en tout cas à envoyer leur candidature. Okay. On regarde deux choses, l'envie et la passion pour le métier du service, du commerce, et surtout, et ça c'est très important, qu'ils soient engagés localement. J'étais il y a deux semaines à Lons-le-Saunier, à Dole, le franchisé qui a ouvert il y a deux ans le restaurant de Dole, vivait dans le sud à Montpellier, était originaire de Dole et voulait ouvrir un restaurant dans sa ville.
Elle vous accueille bien les villes ?
Très bien, parce qu'en fait...
On voit, alors, il n'y a pas que vous, hein, il y a KFC, je vais citer les concurrents, il y a McDo, on voit, il y a des projets d'ouverture un peu fous. Quick veut ouvrir 30 restaurants cette année, McDo une cinquantaine, vous, je crois que c'est 60. Est-ce que les maires vous ouvrent grand les bras et est-ce que ça se passe de la même façon dans les petites villes, parce que vous ouvrez dans des toutes petites villes et dans les grandes villes ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la dynamique du marché français, elle est très forte, mais pas simplement sur la restauration accessible, elle est aussi très forte sur la restauration traditionnelle et la restauration à table. Nous, dans le groupe Bertrand, on a une unité qui s'appelle Bertrand Franchise, dont le directeur général est Christophe Gachin, qui gère l'ensemble du développement des marques. Et cette année, au total, nous, Burger King, on va ouvrir 60 restaurants, mais le reste des entités, on va ouvrir 90 restaurants. Des Léon, des Hippo, des Hauts Bureaux, des Volfoni, etc.
Donc, ça veut dire, une parenthèse, ça veut dire que la consommation est en berne, mais finalement les gens vont toujours manger au resto. Je croyais qu'ils mangeaient de plus en plus chez eux.
Alors là, en ce moment, je pense que les consommateurs, les clients font un peu attention à leurs dépenses, qu'on est dans un climat un peu difficile, mais la tendance de fond, c'est une tendance de fond où les clients vont continuer à sortir. Il faut savoir que la France est un pays sous-pénétrant en restauration. Quand vous regardez en Espagne, par exemple, on a un restaurant pour 150 habitants en France et un restaurant pour 500 habitants. Donc il y a un rattrapage de la France sur la restauration et notamment sur la restauration accessible. Pourquoi ? Parce qu'elle est proche des gens.
Les tacos,
oui, tout type de restauration.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on vous voit tous éclore là partout, toutes marques. Mais vous dites, il y a de la place, c'est un marché super rentable.
Il y a de la place parce que je pense que le consommateur recherche en effet différentes alternatives. Il aime le burger, il aime la pizza, mais il aime aussi les pokéballs, les salades. Donc il y a une offre qui se développe fortement
sur tous les segments.
Et les maires, je pense qu'ils nous accueillent très positivement, parce qu'ils savent, dans la grande majorité des cas, j'étais à l'ouverture de Le Plessis-Belleville avec le maire, c'est une ville de 5000 habitants, bon, qui rayonne, hein, qui est à la limite de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Et en fait, je parlais avec lui, il disait, mais c'est fantastique pour nous qu'une marque comme Burger King arrive, c'est des emplois pour les jeunes, c'est entre 50 et 70 emplois, c'est une dynamique commerciale, c'est une marque, on sait, qui est engagée localement. Là, on a fait le choix, par exemple, au-delà des produits français, et c'est un point important en termes de valeur pour la marque, on a fait le choix de prendre le lait, c'est qu'il patron. an. On va vendre 300 000 litres de lait avec nos boissons chaudes cette année. Donc, c'est une marque avec des valeurs fortes et je pense que les maires le savent et on leur explique quand ils ne le savent pas et on essaie de les convaincre.
Parlons de la transition alimentaire, Alexandre Simon. Toutes les enseignes de restauration rapide, elles proposent des offres végétariennes. Mais est-ce que ça marche ? Ça représente quoi dans vos ventes ?
Alors nous, déjà, je tiens à dire qu'on a été les pionniers, puisqu'on a commencé en 2020, à la sortie du Covid. On a pris ce pari de faire du veggie chez Burger King. On a certainement l'offre la plus large du marché en burger. Et en fait, on a pris tous nos produits iconiques et on les a répliqués en version végétale. Donc on a fait ce pari il y a 5 ans. Tout le monde nous disait, c'est une folie, ça ne marchera jamais. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est ravis. Alors on l'a fait pourquoi ? On l'a fait parce qu'il y a une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent consommer moins de viande, qui sont des flexitariens, oui, pour différentes raisons.
Et mais, donc, mais ça on l'a fait. Quoi dans les ventes ?
On est une marque universelle, ça représente un burger iconique sur 5 est un burger végétarien. Donc c'est colossal quand même pour nous, c'est assez important. Ouais. Et on estime que ça nous a apporté entre 5 points de croissance en tickets, en transactions supplémentaires et en vente. Donc c'est incrémental et ça permet de réunir. On est une marque universelle, on est une marque pour tous, on est une marque de plaisir et ça contribue à ce plaisir.
Et est-ce que vous allez mettre en place le Nutri-Score ? Parce que j'ai vu que vous ne l'avez pas mis en place. Il y a d'autres enseignes qui l'ont mis en place.
Alors, on n'a pas le Nutri-Score, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne regarde pas les éléments de nutrition. Déjà, je vous l'ai dit, on est une marque, on ne fait aucun compromis sur la qualité des produits. Mmh. Nos produits, il faut savoir que les tomates, les oignons chez Burger King, pourquoi le Whopper est aussi bon ? C'est que toutes les tomates et les oignons sont découpées sur place tous les matins.
Alors non, on ne va pas faire la recette du Whopper, j'ai des questions sur le prix. Attendez.
Et sur le Nutri-Score, on ne le propose pas pour une raison simple, c'est que quand on va au restaurant, on ne va pas faire ses courses. On va manger un produit. Quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas forcément envie, sur une pizza, sur une côte de bœuf, de voir le Nutri-Score. Mais on l'a fait. Je peux vous dire que c'est étonnant, mais le Whopper, par exemple, est en Nutri-Score B. Donc, malgré
ça,
tout...
Vous n'avez pas le Nutri-Score, mais vous connaissez le... Ok. Alors, paramètre important pour les consommateurs, le prix. On vient de sortir de la grosse bosse d'inflation. Tout le monde, depuis 2023, a mis un menu à 5 euros. Là, en ce moment, vous faites de la pub pour un produit à 2,90 euros. Il y a une guerre des prix. C'est nécessaire pour maintenir les ventes ?
Alors, ce qu'il faut, on va se remettre un petit peu dans le contexte du client. Mais le client, on a vécu des crises assez importantes. N'oublions pas, gilet jaune, Covid, les inflations. Il faut savoir que l'inflation, c'est colossal. Le prix du bœuf a doublé quasiment sur les 4 dernières années. Donc, on a des inflations qui sont colossales. Et je tiens à remercier nos franchisés qui jouent le jeu, justement, sur les positionnements prix, mais nous on a fait le pari de mettre les clients au centre de tout ce qu'on fait. Pas simplement sur les prix, sur le reste, sur l'innovation produit, sur la qualité et sur les prix. Et sur les prix, on n'a pas baissé nos prix, on a juste maintenu nos prix chez Burger King, on a toujours eu depuis 10 ans un menu enfant à 4 euros, on a toujours eu un menu d'entrée de gamme à 5 euros et on l'a conservé et on a autant des menus à 4 et 5 euros et on a aussi des menus gourmets à 12-13 euros avec du Cantal AOP, avec du maroilles dans le Nord.
Et dernière question, quelques secondes, et la taxe soda qui est dans le PLFSS.
Alors l'impact, il est colossal aussi, puisqu'on a pris un mur de l'inflation. La taxe soda, il faut savoir que ça représente pour nous un doublement des taxes. Donc on passe de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros pour l'ensemble de Burger King au niveau France. Et le consommateur, lui, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on a une variété de boissons. On n'a pas que du soda. On a des jus, on a du thé glacé, etc. Et on va lui laisser ce choix. Et le consommateur décidera. Et on va essayer de l'orienter, bien sûr, vers des boissons peut-être un peu moins sucrées, parce que c'est notre intérêt.
Alexandre Simon, le directeur général de Burger King France. Merci d'avoir accepté l'invitation dans
l'Arrête pas l'écho. Merci infiniment.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, notre auditrice Juliette est commerciale. Elle est passée à temps partiel il y a 2 ans à 90%, mais elle n'a jamais signé d'avenant à son contrat de travail. Son employeur a continué à la payer sur un temps plein et maintenant il lui demande de rembourser la différence. Est-ce que Juliette peut refuser ?
En principe, Juliette, les trop perçus doivent être remboursés, même si c'est l'employeur qui commet l'erreur. On se souvient de cette affaire de Sceaux Local, les ex-pages jaunes. Le logiciel de paye avait sérieusement buggé. Mais les commerciaux avaient dû rendre de sacrées sommes, jusqu'à 8000 euros pour certains. Il existe des possibilités d'échelonnement, mais la règle, c'est qu'une direction a 3 ans pour réclamer les indus qui ne doivent pas dépasser chaque mois 10% du salaire net. Donc, en principe, oui, Juliette, vous devez rendre l'argent, sauf que votre employeur ne vous a pas fait signer d'avenant au contrat de travail. Or, il n'est pas possible de passer à temps partiel sans écrit. Le temps de travail est une mention obligatoire du contrat, rappelle l'avocate Salomé Raffoul de Comarmont du cabinet LBBA. en l'absence d'avenant. Vous êtes toujours présumée à temps plein, Juliette. Le trop perçu devient bancal. En tout cas, c'est un point que vous pouvez négocier avec votre employeur, voire avec un avocat en droit du travail. D'autant qu'avec des fiches de paye assez variables tous les mois, il est parfois difficile de se rendre compte qu'on est trop payé.
Alors, justement, Sandrine, est-ce qu'on peut sanctionner un salarié qui s'est aperçu de l'erreur, mais qui sciemment ne dit rien ?
Alors, ça dépend. L'an dernier, la Cour de cassation a donné raison à un commercial angevin payé sous forme de salaire fixe et de primes. Il avait trop perçu de parts variables et son employeur l'avait licencié au motif qu'il avait intentionnellement caché cette erreur. Or, il était trop compliqué de faire la part des choses entre le fixe et le variable pour dissimuler un indu, encore faut-il le connaître, l'employeur ne pouvait pas démontrer que le salarié en avait pleinement conscience. Une vendeuse employée dans une crèmerie bourguignonne n'a pas bénéficié, elle, de la mensuétude des juges. Son employeur lui avait versé un acompte et il a continué des mois durant à lui payer cette somme en plus de son salaire. Certains salariés avait signalé le trop perçu, mais pas elle. La société a fini par la licencier. La Cour de cassation a jugé que le caractère volontaire et persistant de la dissimulation pouvait constituer une faute grave. C'était quand même un trop perçu de 25 000 euros. Ça commence à se voir. Évidemment, la tentation peut être forte. Au Chili, un employé a touché par erreur 300 fois son salaire, 172 000 euros au total. Il a appelé sa direction, qui lui a confirmé que c'était bien une grosse bourde. Elle l'a prié de faire un versement en sens inverse. Il a pris l'argent et décampé. Ça fait 2 ans et il paraît que la police le cherche toujours.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.